Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'antre du Ridicule Morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Perso, elle s'est bien passée, donc on part sur une bonne ambiance pour le mois de septembre. Et en plus de ça, j'ai pour vous l'histoire d'un tueur en série qui ressemble à une mouche. En avant pour Yanny Palmier. Yanny Palmier est né le 24 décembre 1978 à Montmorency et a grandi dans une fratrie de 9 enfants à Ris-Orangis dans un HLM. Malgré le fait qu'il arrive alors qu'il y a déjà pas mal de monde, il est très désiré par sa mère, Félicienne, qui le gâte tout pourri. Son père, par contre, c'est une autre histoire. Au moment où Yanny naît, il a déjà quitté les lieux, il a déjà plusieurs enfants avec une autre femme et est donc presque complètement absent. Durant son enfance, Yanny n'a pas beaucoup d'amis, ce qui nous fait un point commun et ça me dérange. Et il est en surpoids, ce qui nous fait un deuxième point commun, ce qui me dérange encore plus. Néanmoins, à l'adolescence, il décide de prendre un chemin différent du mien et il se met au sport et développe ce qu'il appellera une anorexie contrôlée. En effet, il a à un moment atteint les 45 kg pour 1m78. C'est très bas, il s'agirait de doser. Il ira même jusqu'à installer un sauna dans son appartement une fois qu'il est adulte. Belle initiative, je présume ? Bref, ses particularités ne s'arrêtent pas là, puisqu'au fur et à mesure qu'il grandit, il développe des manies étranges, comme refuser d'avaler sa salive, qu'il crache dans un mouchoir, et se laver les mains à l'eau de Javel. Alors, je suis quelqu'un de très propre, mais de là à me laver les mains à l'eau de Javel, je pense que ce monsieur a un problème. Oui, il a un problème. D'ailleurs, sa mère aussi n'avale pas sa salive. Bizarre, les traditions familiales, hein. Lorsqu'il est adolescent, la grande sœur de Yanny se suicide, ce qui perturbe encore plus son équilibre déjà bien bancal. Malgré ça, il continue à vivre et lorsqu'il atteint la majorité, il est passionné par la musique et la radio. Il obtient une table de mixage et travaille bénévolement pour les radios Espace FM et Mediatropic, aujourd'hui Tropic FM. Cependant, sa carrière dans la radio arrive rapidement au point mort lorsqu'il a une altercation avec son directeur de programme. C'est clair que c'est pas la chose idéale pour obtenir un CDI. Yanny se décrit comme psychorigide et attiré par l'armée qu'il ne pourra jamais intégrer à cause de ses antécédents judiciaires. Quels antécédents, me dites-vous ? Eh bien, tout simplement, il poignarde sa mère en 2004 et est condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois ferme. Malgré ça, sa mère l'aide toujours quand il sort de prison. C'est plus de l'amour maternel, là, c'est un syndrome de Stockholm, mais ok. Elle lui trouve un appartement à Draveil et l'aide à toucher les aides de l'État. Yanny se retrouve ainsi à vivre du RSA et de petits boulots au noir. À côté de ça, il rejoint l'église christianiste céleste, une secte qui est notamment accusée d'avoir crucifié un enfant en Guyane. Pour son baptême, il est chargé de lancer un cocktail Molotov sur la bibliothèque de Ris-Orangis, ce qui le fera condamner une deuxième fois. Moi, pour mon baptême, on m'a balancé de l'eau à la gueule et je pense que c'est assez suffisant. Bref, il reste 2 ans dans cette secte avant que sa mère ne vienne à la rescousse. Faudrait avoir une discussion avec cette femme, hein, vraiment, je pense qu'elle a besoin d'aide. Et après ça, il continue d'être condamné pour des agressions, des menaces de mort et des ports d'armes prohibées. Niveau amour, ça va pas trop pour Yanny non plus. Certes, il a une relation homosexuelle courte, puis il sort avec une fille mineure pendant 2 ans. Mais il dit préférer sa moto. Qu'il appelle Suzy. Parce que c'est une Suzuki, mais aussi parce qu'il est bizarre. Maintenant que nous avons présenté notre tueur, passons aux faits et à l'enquête. À Juvisy-sur-Orge, le 27 novembre 2011, une femme est retrouvée gisant dans le parking de son immeuble. Elle est couverte de sang, mais elle est encore en vie. Il s'agit de Nathalie Davids, une technicienne de laboratoire de 35 ans. Elle s'est faite tirer dessus, mais ne survit malheureusement pas à ses blessures. Les enquêteurs interrogent les habitants de l'immeuble, mais apparemment, personne n'a entendu les détonations. Par contre, plusieurs personnes ont vu un motard complètement inconnu au bataillon traîner dans le parking. Il se la jouait énigmatique en étant habillé tout en noir et en gardant son casque sur sa tête, même lorsque sa moto, était éteinte. Celle-ci est reconnue par un témoin, c'est une Suzuki. Les policiers perquisitionnent l'appartement de Nathalie Davids et trouvent son journal où elle parle d'un ancien amant qui lui fait peur et qui la menace. Cet amant est Michel Courtois, 45 ans. Le 1er décembre, la BRI interpelle Michel qui ne savait même pas que Nathalie était morte. Durant sa garde à vue, Michel nie les faits mais avoue être un motard. Il avoue également qu'il avait menti à Nathalie en lui disant qu'il venait d'une famille de mafieux siciliens alors qu'en réalité, il est picard. C'est clair que ça n'a pas la même classe. Il reconnaît avoir passé la nuit avec Nathalie quelques jours avant sa mort et n'a pas d'alibi pour le moment de sa mort. S'ajoute à cela le fait que des résidus de poudre sont retrouvés sur l'une de ses vestes et son sac à dos, ce qu'il n'arrive pas à expliquer. Et c'est là qu'il décide d'avouer le meurtre de Nathalie. Il est donc aussitôt mis en examen pour meurtre avec préméditation. Cependant, le 13 décembre, lors de sa première comparution, Michel revient sur ses aveux et dit avoir subi beaucoup de pression de la part des enquêteurs. Néanmoins, il ne fait pas de demande de remise de liberté parce qu'il ne sait tout simplement pas comment le système judiciaire fonctionne et je peux pas lui en vouloir parce que avant de me lancer dans le podcast, je savais pas trop non plus. Et ça n'est pas son cas parce que les enquêteurs pensent plutôt que c'est parce qu'il est coupable qu'il n'a pas fait de demande de remise en liberté. 3 mois plus tard, toujours à Juvisy-sur-Orge, dans le même immeuble, dans le même parking, Jean-Yves Bonnerue, 52 ans, est tué par arme à feu. L'arme, est la même que pour Nathalie et le même homme a été aperçu rôdant dans le parking. Les enquêteurs ne lâchent pas pour autant la veste de Michel Courtois et pensent qu'il a un complice qui a tué quelqu'un pour appuyer sa demande de remise en liberté qu'il a fini par faire, du coup. Un mois plus tard, le 17 mars 2012, à Ris-Orangis cette fois, Marcel Brunetto est retrouvé inconscient. Il a 81 ans, alors au début on pense qu'il a fait un malaise, mais on découvre rapidement qu'il s'est fait tirer une balle dans la tête. 2 jours plus tôt, un homme avec un casque noir a été repéré dans le coin. À ce moment-là, 3 militaires avaient été tués par un motard dans le sud de la France, alors les enquêteurs se demandent s'il n'y a pas un lien entre les deux affaires. Malheureusement, cette piste tombe à l'eau lorsqu'ils apprennent que l'homme qui a tué les militaires est Mohamed Merah. Le 5 avril 2012, à Grigny, Nadia Boudjemalassen, 48 ans, est tuée de 3 balles dans la tête dans le hall de son immeuble. Une voisine a vu un homme prendre calmement la fuite après les détonations et son compagnon a vu une moto bleue et blanche rôder près de l'immeuble la veille. Un jeune du quartier, lui, décrit précisément la moto en question. C'est une Suzuki GSX-R. Son signalement est diffusé dans les commissariats et les médias le lendemain. Malgré tout cela, les enquêteurs ne lâchent toujours pas la veste de Michel Courtois qui reste en prison. Les enquêteurs analysent les cartes grises des propriétaires de ce modèle de moto et tombent ainsi sur Yoni Palmier qui a établi sa carte grise avec une fausse adresse. Il retrouve, sa véritable adresse à Draveil et passe lui rendre une petite visite. Yoni est nerveux et répond complètement à côté de la plaque, disant qu'il a été agressé alors que dans le contexte de la visite. Disons-le clairement, on s'en bat un peu les roubignoles. Les enquêteurs analysent son profil et découvrent qu'il utilise plusieurs adresses et qu'il a déjà eu des démêlés avec la justice. Le 12 avril, une équipe de la BRI le prend en filature et découvre ainsi qu'il loue plusieurs box, chacun étant près du lieu d'un des crimes. Quelque temps plus tard, un garagiste contacte les policiers pour leur dire qu'un certain Yoni Palmier lui a demandé d'adapter l'un de ses véhicules pour pouvoir tracter sa Suzuki GSXR. Il lui a d'ailleurs laissé un chèque en bois. C'est pas le moment de se faire des ennemis, Yoni. Bref, en plus de tout ça, plusieurs armuriers disent avoir reçu une visite de Yoni qui a voulu acheter des masques à gaz et du gaz lacrymogène tout en évitant, de manière évidente, les caméras de surveillance. Le 14 avril, la BRI interpelle Yoni. Au moment de son arrestation, Yoni a une arme sur lui, mais pas celle qui a servi au meurtre. Son appartement est fouillé, en vain. Mais Yoni a un box à Viry-Châtillon et c'est dans ce box qu'on retrouve Suzy, sa Suzuki. Le 15 avril, les policiers commencent à interroger Yoni qui ne coopère pas du tout. Il est emmené là où il vivait avec sa mère, à Ris-Orangis, où les policiers retrouvent une douille provenant de l'arme qui a servi au crime. Le lendemain, Lioni reconnaît le meurtre de Nathalie Davids. Le 17 avril, mon anniversaire, Lioni leur parle d'un troisième box où serait cachée l'arme des crimes. Les enquêteurs s'y rendent et trouvent un gilet pare-balles, de quoi faire les premiers soins et des vivres. Ils trouvent également des explosifs et beaucoup d'armes, dont une arbalète, cachée dans une caisse cadenassée. Dans quel contexte t'as besoin d'une arbalète? Bref, parmi les armes, il y a effectivement l'arme des crimes. Lioni est mis en examen pour les quatre assassinats. Est-ce que j'ai mentionné que Michel Courtois est toujours en prison? Il est toujours en prison. D'ailleurs, les enquêteurs se rendent compte que les particules de plomb et de barium retrouvées sur ses affaires pouvaient venir de son lieu de travail puisqu'il travaille dans le bâtiment. Il est libéré 2 ou 3 mois après la mise en examen de Lioni Palmier. Aujourd'hui, il vit au RSA et n'arrive plus à trouver de boulot. Il a été dédommagé par la justice à hauteur de 18 000 euros, plus ses frais d'avocat. Et je trouve que c'est absolument insuffisant. Revenons à Lioni. Celui-ci explique la perte de son permis de conduire et ses faux papiers par des complots, mais il continue de nier les meurtres. Le 31 juillet 2012, il remet une lettre à son avocat, et dans cette lettre, écrite à la main, un certain Niorca s'accuse des meurtres, enfin des 2 derniers meurtres, et dit que les 2 premiers auraient été commis par des amis. Donc cette lettre ne proviendrait pas de Lioni. Cette lettre, très mal écrite d'ailleurs, le blanchit complètement et dit qu'il aura été forcé à garder les éléments ayant servi au crime. Le seul petit hic, c'est que l'enveloppe est la même que celle qu'utilise sa mère et les experts arrivent à prouver que le stylo utilisé est celui que Lioni a donné à sa mère durant une visite au parloir. Pas une lumière celui-là, hein. Il raconte alors que c'est pas lui mais un groupement de personnes qui ont eu pitié de lui parce qu'il a eu une vie dure à ce qui paraît, hein, et qui veulent le venger. Le 3 mars 2013, il tente une autre méthode pour se libérer de cette affaire. Il tente de s'évader, tout simplement, mais les gardes trouvent dans sa chambre des draps noués, un crochet de suspension et un couteau, et il est alors changé de prison. Le 31 mars 2015, le procès de Lioni commence. Durant ce procès, il dit ne pas comprendre pourquoi la justice s'acharne sur lui et continue ses théories du complot. Sa mère, elle, continue de le défendre. Il faut libérer cette femme. Il faut libérer cette femme. Bref, on pourrait croire que Lioni est fou, mais les experts le déclarent sain d'esprit malgré sa personnalité étrange. Et donc, le 16 avril 2015, il prend perpétuité avec 22 ans de sûreté et une rétention de sûreté, qui est une mesure qui permet de garder les personnes considérées comme dangereuses en prison plus longtemps. Lioni fait appel et son deuxième procès commence le 13 mars 2017. Cette fois, il avoue tout, mais il ne donne pas de détails sur la raison des meurtres. Cette fois, la rétention de sûreté est retirée et Lioni Palmier pourra donc demander une libération conditionnelle en 2034. Et c'est là que s'arrête cette affaire, donc, pour l'instant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire sur Twitter, @mwacpod, ou sur le site murderwinecheese.com. Et si vous avez une suggestion d'affaire que vous voudriez que je traite aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je réponds toujours. Et si vous avez un peu de monnaie de côté, vous pouvez aussi faire un don sur mon PayPal, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite de trouver un billet de 10 par terre et je vous dis au prochain épisode. Salut !